Radio Kapi.
Le journal présenté par Billy Van Lutumba.
Nous parlons tout de suite en ouverture de ce journal de la situation qui prévaut dans le Nord Kivu, précisément dans les zones où les groupes armés locaux affrontent les rebelles du M23 qualifiés des terroristes par le pouvoir de Kinshasa. Ils tiennent à les déloger des zones qu'ils occupent. Santé, il en sera question dans ce journal avec ce nombre des cas de choléra notés en baisse dans la zone de santé de Kabalo. Comparativement à la 40e semaine, au cours de la 42e semaine, seuls 24 cas sont enregistrés avec 2 décès contre 90 cas et multiples morts. Karam Nassoro, chef de bureau MONUSCO Bounia, est reçu en fin de ce journal comme invité. Il s'est réjoui de l'amélioration des conditions de sécurité dans la province de l'Ituri grâce notamment aux opérations menées par les FARDC avec l'appui des forces de la MONUSCO. Nous parlons tout de suite de ces titres ainsi que bien d'autres nouvelles qui défraient l'actualité congolaise ce jour. Fidèles auditeurs, bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant d'aller plus loin, sachez, nous parlons d'abord contentieux des candidatures à l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle a pris les 11 affaires sous examen en délibéré. Elle promet de rendre son verdict lundi 30 octobre. À son audience publique de ce vendredi, elle a immédiatement rejeté la requête de M. Tshivwadi Junior pour défaut de qualité. Elle a statué sur d'autres affaires sur lesquelles les avocats ont plaidé. D'abord, l'avocat du candidat Assed Kikuni qui a demandé à la Cour d'invalider la candidature de Félix Tshisekedi qui violerait l'immuabilité de nom en droit. En réaction, l'avocat de Félix Tshisekedi rejette les accusations de la partie Assed Kikuni. Selon Jacques-Claude Chilumbayi, le candidat Tshisekedi ne s'est pas présenté sous une identité autre que celle figurant sur sa carte d'électeur. Ce serait lui faire un procès de mauvaise intention. Dans son avis, émis pour rejeter cette requête, le ministère public a relevé contre le candidat Assed Kikuni le non-respect du délai. Au lieu de déposer sa requête 48 heures après la publication de la liste des candidatures provisoires à l'élection présidentielle, il l'aurait fait au-delà du délai prévu. Un autre moyen soulevé par le procureur général est l'absence des pièces à conviction d'après la défense de Félix Tshisekedi. Situation sécuritaire dans la partie est du pays, dans le Nord Kivu, une accalmie relative est observée ce vendredi matin dans la zone de Kibumba, en territoire des Nyiragongo. C'est après des affrontements toute la matinée d'hier jeudi, selon plusieurs sources. Dans les groupements de Mbambo et Bukombo, territoire de Rutshuru, en revanche, les hostilités se poursuivent pour un troisième jour consécutif, comme nous l'a dit Bernard Nyangi.
Après ces intenses combats d'hier jeudi, tout paraît calme ce vendredi à Kibumba et Bumba dans le territoire de Nyiragongo. Plusieurs sources affirment que les belligérants FARDC et groupes armés locaux d'une part, les rebelles du M23 et leurs alliés de l'autre, sont en alerte maximum et renforcent leur position. Jusqu'ici, il n'y a pas assez de précision sur qui de ces forces occupe Kibumba après ces intenses combats. Certains groupes armés disent avoir repoussé le M23 de cette commune rurale. D'autres sources affirment que Kibumba ne serait occupé par aucune force, mais que les rebelles M23 seraient toujours dans les environs. Par ailleurs, des tirs d'armes lourdes retentissent toujours dans le groupement de Bambo et Bukombo, occupé depuis hier par les rebelles du M23. Vers 9h locales ce vendredi, un obus est tombé dans un quartier est de Bambo dénommé Majengo, faisant au moins 2 blessés parmi les civils, indiquent certaines sources et la notabilité locale. Ces sources affirment que, dans l'opération de ratissage du centre de Bambo, plusieurs maisons d'habitation et boutiques ont été pillées, 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, alors que toute la partie nord de Bambo s'est vidée de ses habitants. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Dans un communiqué signé le 25 octobre dernier, Bruno Lemarquis exprime la profonde préoccupation de la communauté humanitaire face à cette escalade des violences contre les civils. Aucun mot ne peut exprimer notre tristesse face aux vies perdues et à l'immense souffrance endurée depuis plusieurs années par la population affectée, dit-il. J'en appelle à toutes les parties pour assurer la protection des civils et le respect du droit international humanitaire, déclare Bruno Lemarquis. Sifa Maguro pour plus de détails.
Dans ses communiqués d'Ocha, son coordonnateur revient sur les tueries des civils le 23 octobre à Oicha, en territoire des Beni, qui ont fait une vingtaine de personnes tuées et des blessés lors d'une attaque. Cette attaque a également contraint plusieurs milliers de personnes à fuir leurs habitations et a perturbé des opérations humanitaires. Deux véhicules des ONG ont été incendiés par les manifestants en colère, mais aussi trois camions transportant une assistance humanitaire, ajoute ce communiqué, contraignant de nombreuses organisations à suspendre leurs activités à Oicha. Plus de 140 000 personnes dans les besoins sont ainsi privées d'une aide humanitaire. Des milliers d'autres personnes se retrouvent coupées de l'assistance humanitaire depuis le début du mois d'octobre à la suite des violences armées dans les territoires de Rutshuru et Masisi et provoqué des déplacements de près de 200 000 personnes additionnelles. Bruno Lemarquis exprime ses sincères condoléances et solidarité aux familles des victimes et ajoute que la communauté humanitaire reste mobilisée auprès des populations affectées. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Santé dans la province du Tanganyika, baisse des cas de choléra dans le territoire de Kabalo. D'après le député Virginie Nkulunemba, élu de Kabalo, qui revient de cette contrée, à la 42e semaine, la zone de santé de Kabalo a enregistré 24 cas et 0 décès. Contrairement à la 40e semaine, où la zone avait enregistré plus de 90 cas et plusieurs décès. D'après elle, cette baisse s'explique notamment par les médicaments et intrants dépêchés par le gouvernement provincial du Tanganyika pour la prise en charge des malades. Le député Virginie Nkulu est au micro de Paul Monanga.
À la 40e semaine, ils étaient à 90 cas et plusieurs décès. Heureusement, il y avait des initiatives localement où il y a eu les pharmaciens, les commerçants, les opérateurs économiques qui se sont cotisés pour quand même faire face à cette situation en urgence. Et ce n'est que le début de la saison de pluie. Que dirions-nous quand il va pleuvoir abondamment? Parce que c'est pendant la saison de pluie et à la proximité des maladies hydriques. Alors, grâce à cette intervention et puis l'intervention du gouvernement provincial, bien que c'est arrivé en retard, nous saluons aussi ça. Il y a eu une nette amélioration. On doit vraiment multiplier les sites d'exploration d'eau pour lutter contre cette épidémie. Et beaucoup de sensibilisation, parce que nous savons tous que le choléra, c'est la maladie de mains sales. Et lorsque l'eau est affectée, les gens prennent de l'eau non potable, alors les gens se contaminent facilement. On va plus sensibiliser que les gens se lavent les mains à tout mouvement. C'est le seul moyen où nous pouvons lutter contre les choléra.
Bonne nouvelle pour les déplacés de Kwamut vivant à Bandundu dans la province du Kwilu. La présidence de la République vient d'apporter son soutien à l'hôpital général de référence de Bandundu en lui offrant un lot important des intrants pour la prise en charge sanitaire à dispenser à ces personnes fuyant les atrocités dans la province de Maïndombe. C'est le conseiller et expert au bureau du directeur du cabinet du président de la République, Ignace Ndonna, qui a procédé à la remise officielle de cette dotation jeudi aux autorités sanitaires. Selon lui, c'est pour répondre au plaidoyer mené par certains notables de Bandundu auprès du chef de l'État en faveur de ces personnes. Irène Bouma.
Cette dotation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'hôpital général de référence de Bandundu est constituée de médicaments de divers types, dont les antipalidéens, des antibiotiques et autres. Ces produits pharmaceutiques permettront à cet établissement de soins d'assurer une prise en charge globale des personnes déplacées de Kwamut, a déclaré le conseiller de la direction du cabinet des chefs de l'État, le professeur Ignace Ndonna, qui a procédé à la remise de ces dons. Pour sa part, le chef de division provinciale de la santé du Kwilu, Dr Jean-Pierre Basake, a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État pour cet appui visant à sauver des milliers de vies parmi les déplacés de Kwamut accueillis à Bandundu.
Vraiment un plaisir pour nous de se retrouver aux côtés de ces lots de médicaments venant de mains de maîtres. Nos établissements de soins avaient du mal à répondre à la présence de ces gens et à donner satisfaction aux soins.
Précisons que la remise de ces lots de médicaments a eu lieu dans l'enceinte de l'hôpital général des références de Bandundu en présence de plusieurs autorités sanitaires, du personnel soignant et autres. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Une délégation des parlementaires français a visité ce jeudi 26 octobre des locaux du Master en Santé publique à la Faculté de médecine de l'Université protestante du Congo UPC. Il s'agit d'un projet de partenariat entre l'Université Paris-Saclay et l'UPC en santé publique en milieu tropical à travers une formation de niveau Master. D'après le professeur Bobette Matulonga, responsable académique du Master, cette formation qui se donne à double niveau est en quelque sorte une concrétisation de ce qu'elle a appelé la promotion de la diplomatie scientifique entre la RDC et la France. Le point avec Jacques-Yves Molima.
Il était question pour la délégation des députés français de s'imprégner de cette coopération scientifique entre les deux nations. Arnaud Legal, député du Val d'Oise.
Nous sommes venus voir un modèle de coopération scientifique sur les maladies tropicales, entre autres, pas que, sur l'ensemble de la santé entre la France et la République démocratique du Congo. C'est une coopération qui nous impressionne parce qu'elle fonctionne dans les deux sens, chacun à apprendre de l'autre. C'est donc tout ce que nous voulons promouvoir.
Mais à quel point ce projet est profitable pour la RDC ? Professeur Bobette Matulonga explique.
Ce projet est extrêmement profitable parce qu'on intervient dans trois secteurs. On intervient dans les soutiens du modèle LMD qui est en train de s'installer en République démocratique du Congo. On intervient également dans les soutiens à la recherche scientifique et innovation technologique. Et en plus, nous formons des chercheurs congolais sur les standards internationaux, notamment sur le modèle français, mais en gardant notre contexte congolais.
Pour les étudiants, cette formation en santé publique tombe à point nommé.
Actuellement, nous assistons à des maladies émergentes et cette formation de master va nous permettre de faire une cartographie et mettre sur pied des stratégies.
Notons que les cours se déroulent dans un premier temps en présentiel avec des professeurs congolais et à distance avec les professeurs français.
L'Union européenne a signé ce jeudi 26 octobre des partenariats stratégiques sur les chaînes des valeurs des matières premières critiques avec la RDC et la Zambie et fait progresser la coopération avec les États-Unis et d'autres partenaires clés pour développer les corridors de Lobito. Cette signature a eu lieu en marge du Forum Global Gateway qui se tient à Bruxelles en Belgique. C'est ce que révèle un communiqué de presse de l'Union européenne parvenu à Radio Capi. Plus de détails avec Paul Matendo.
Selon ce communiqué, ce partenariat porte sur 5 domaines de coopération sur la matière première critique. Il s'agit de l'intégration des chaînes des valeurs durables pour les matières premières, la mobilisation des fonds pour le développement des infrastructures, la coopération pour parvenir à une production durable et responsable, la coopération en matière de recherche et d'innovation, et enfin le renforcement des capacités pour faire respecter les règles pertinentes. La stratégie globale Gateway jouera un rôle central dans le soutien aux actions menées dans le cadre du partenariat avec la RDC sur les chaînes des valeurs des matières premières critiques et stratégiques et du partenariat durable sur les matières premières avec la Zambie, souligne-t-il. Lors de cette signature, l'Union européenne était représentée par la commissaire chargée des partenariats internationaux Jutta Urpilainen, la RDC par le ministre des Transports et Voies de Communication Marc Kikila, la Zambie, elle, par son ministre des Finances Situmbeko Musa. Parlant du développement du corridor de Lobito, le protocole d'accord signé ce jeudi décrit la collaboration entre les différents partenaires concernés et définit le rôle et les objectifs dans la perspective du développement du corridor de Lobito.
Inculquer l'esprit entrepreneurial chez les élèves, c'est le but de l'activité parascolaire organisée ce jeudi à l'école Future Leader Academy en partenariat avec la SBL Bilanga ya Beto à Kinshasa. Cette initiative portée sur le manioc, ses dérivés et ses différentes applications. Elle vise à valoriser les ressources locales, notamment pour pouvoir affronter les périodes de crise. Reportage de Merveille Assani.
Les élèves de première primaire jusqu'au troisième secondaire ont bénéficié de cette séance. C'était vraiment pour joindre l'utile à l'agréable, affirme Karine Daya, l'une des directrices de l'école Future Leader Academy.
C'était pour leur montrer le manioc, c'est une plante qui a une racine en soi et qui a des feuilles. Et tout ce qui vient du manioc peut être transformé pour en faire une activité non seulement de transformation, mais aussi de commercialisation. Et comme ils ont aussi un cours d'entrepreneuriat, c'était vraiment passer de la théorie à la pratique concrète.
Désiré Ilunga, l'un des formateurs chez Bilanga ya Beto, présente de nombreux mets exposés à base de manioc.
Nous les avons expliqué les variantes de manioc qui peuvent être transformées en différentes manières. Nous avons amené des chikwangs ici, nous avons amené des gaufres en manioc.
Quelques participants, dont deux élèves, manifestent leur joie.
Alors déjà, je tiens à remercier Bilanga ya Beto pour le cas d'aujourd'hui. J'ai bien aimé.
J'ai appris qu'on peut faire plein de choses d'une chose. Avec le manioc, ils pouvaient faire la farine du manioc. manioc, le lait à base de manioc et des biscuits et des crêpes et beaucoup plus de choses.
Notons que cette activité s'est tenue en marge de la Journée internationale de l'alimentation célébrée le 16 octobre.
Actualité internationale.
Depuis quelques semaines, l'Afrique du Sud fait face à l'une des plus graves épidémies de grippe aviaire de son histoire. Le pays, qui est l'un des plus gros producteurs de volailles du continent, a signalé ses premiers cas au mois d'avril. Mais depuis, la situation ne s'arrange pas et la maladie a décimé des millions de poulets. Les conséquences de l'épidémie se font déjà ressentir sur l'économie avec des pénuries d'œufs dans les supermarchés. Certains commerçants n'ont pas hésité à augmenter les prix ou à rationner leurs ventes. Et puis, le roi Charles III et son épouse la reine Camilla entament mardi un voyage de 4 jours au Kenya, sa première visite en tant que monarque dans un pays du Commonwealth. Une visite teintée d'histoire. C'est en effet dans ce pays en 1952 que la mère de Charles fut... La reine Elisabeth II a appris la mort de son père, le roi George VI, marquant ainsi le début de son règne historique de 70 ans. Au cours de ces 2 jours dans la capitale, le souverain britannique doit rencontrer des entrepreneurs et des jeunes Kenyans dans un contexte socio-économique difficile.
L'invité.
Il s'agit du chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Marc Karnasoro. Il parle de l'amélioration de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri, grâce notamment aux opérations menées par les FRDC avec l'appui des forces de la MONUSCO, mais aussi aux différents dialogues communautaires et avec des leaders des groupes armés initiés par la MONUSCO pour accompagner le gouvernement provincial. Marc Karnasoro s'entretient avec Isaac Remoyope.
Monsieur le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, bonjour.
Bonjour.
D'abord, quelle est la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province de l'Ituri? Parce qu'on semble constater quand même une certaine accalmie.
Beaucoup d'efforts ont été mis en œuvre au cours des derniers mois écoulés pour essayer de baisser les tensions, pour essayer donc d'amener les acteurs armés à adhérer au processus des DRCS. Parallèlement à cela, il y a eu aussi des opérations militaires qui ont été menées. Donc il y a une combinaison d'efforts et je crois que cela a un impact aujourd'hui sur cette situation que nous voyons en ce moment, quoi qu'elle soit encore précaire puisque la majorité de ces groupes-là gardent encore leurs armes, ils les dissimulent encore et donc à tout moment, ils pourraient donc encore faire recours à la violence.
Nous savons que presque tous les groupes armés locaux de l'Ituri ont signé des accords de cessation unilatérale des hostilités. Pendant ce temps, on est dans une situation presque de statu quo parce qu'ils n'ont pas encore déposé les armes comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui est fait pour accélérer ce processus?
Au niveau de l'approche non militaire, il faut dire que nous avons une stratégie qui s'articule autour de 2 axes principaux. Le premier axe, c'est de travailler avec les communautés à la base, avec les leaders communautaires, pour identifier les vecteurs de tension et ensemble créer les conditions pour qu'ils puissent se parler, pour, si vous voulez, régler ces problèmes-là de manière pacifique. Dans ce sens, la MONUSCO a appuyé le gouvernement provincial et il y a eu une série de rencontres qui ont été matérialisées par des accords d'entente. Il y a eu dernièrement, au mois de juin, l'atelier qui a réuni les responsables des communautés Lessé et Nandé à Komanda et qui a renouvelé l'accord d'Ofai qui avait été aussi facilité par la MONUSCO en 2017 déjà. Il y a aussi eu des discussions qui ont eu lieu du côté des Alour et des Lindou pour essayer d'apaiser les tensions. Il y a eu aussi la facilitation des dialogues intracommunautaires parce qu'à l'intérieur des communautés, on a aussi des pôles de tension. Des pôles de tension qui peuvent s'exacerber et dégénérer facilement. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'engagement à l'endroit des acteurs armés. C'est une démarche de persuasion pour leur expliquer que l'option qu'ils ont, c'est de rejoindre le programme de désarmement et de démobilisation communautaire mis en place par le gouvernement. Dans ce sens aussi, nous avons appuyé le gouvernement en place, le gouvernement provincial en place, et il y a eu des discussions, vous vous souviendrez des discussions de Harou, il y a eu aussi les actes d'engagement qui ont été signés par les groupes armés principaux en Ituri, donc, pour ils se sont engagés à arrêter de s'entendre aux populations civiles et à rejoindre le processus. Depuis le mois de juin 2022, nous avons autour de 22 initiatives de ce type qui ont été entreprises, donc, à l'endroit des communautés d'une part et d'autre part à l'endroit des acteurs armés eux-mêmes.
Ça ne semble pas porter des fruits parce qu'il y a même une feuille de route qui était sortie de cette dernière rencontre tenue à Aru, mais cette feuille de route n'est pas suivie jusque-là parce que ça devrait aboutir à la création des sites, des démobilisations, le désarmement ainsi de suite. Donc ce processus semble être un peu bloqué.
Je pense pas qu'on puisse dire que le processus est bloqué, puisqu'il vous vous souviendrez qu'au mois de mai cette année, nous étions à un pic de quasiment 170 personnes tuées par mois. Donc nous avions un pic, une moyenne que nous n'avions jamais atteint avant. Il vous souviendra aussi que le conflit était en train de déborder de Djougou. On avançait du côté de Mahagui. Le littoral était complètement désert aussi. On ne peut pas dire qu'il y a eu un statu quo, puisque quand même aujourd'hui, on voit qu'on a réussi à baisser l'intensité des activités des groupes armés. Aussi parce que de leur côté, les militaires ont fait un effort. Identifier les modes opératoires de ces criminels-là et puis anticiper sur leurs actions. Parallèlement à ça, il faut dire qu'on a renforcé les systèmes d'alerte précoce. Aujourd'hui, nous en avons quasiment une quarantaine sur l'ensemble des territoires de Djougou, une partie de Mahagui, une partie de Irumu, qui permettent en temps et en heure d'avoir l'alerte et de réagir à temps. Donc, quand on regarde les données qu'on a aujourd'hui, visiblement, la violence a diminué puisque le nombre de victimes a aussi diminué. On constate aussi que les routes sont ouvertes.
Monsieur le chef de bureau de la MONUSCO Nitouri, je vous remercie.
Je vous remercie.